Bonjour Frédéric, déjà merci pour ton invitation. C'est vrai qu'on s'est recroisé sur le dernier salon, alors All for Customers maintenant. Hein. Historiquement, c'était e-marketing ou e-commerce à cette époque, je ne sais jamais lequel des deux. Et oui, on se connaît depuis, que je ne dise pas de conneries, 2009-2010,
Ouais, ça va être ouais.
avec les fameuses
Jeffreeze, ouais, exactement.
Je me souviens d'une interview sur les blogs à l'époque. Les blogs sont
Ouais.
morts. Tu te rappelles? Avec Yann.
Alors justement, LinkedIn, c'est la folie. Il y a eu vraiment une grande vague. Là, on arrive plutôt à une phase de maturité. Toi, tu écris déjà une quatrième édition, je crois, de ton livre maîtriser LinkedIn.
Exactement. En fait, moi, je suis sur LinkedIn depuis des années. J'ai vérifié depuis 2006 et je l'ai énormément utilisé en tant que collaborateur salarié dans différentes entreprises jusqu'à fin 2009. Et là, j'ai compris en fait que je pouvais faire entre guillemets du business avec. J'ai été que commercial, hein, fonction commerciale, donc je pouvais me connecter avec mes interlocuteurs, que ce soit des partenaires. À l'époque, j'étais dans l'email marketing, donc j'avais d'un côté des clients pour faire des campagnes de recrutement, et puis de l'autre côté, j'avais des fournisseurs de bases de données. Et on utilisait aussi des outils comme MSN, le chat MSN, mais LinkedIn permettait de se connecter avec des professionnels, sachant qu'à l'époque, c'était quand même essentiellement le côté CV en ligne. Tu pouvais te connecter
Ouais.
avec des gens, mais les gens avaient une vision CV en ligne. J'ai presque envie de te dire qu'il y a encore majoritairement ça aujourd'hui. Et donc après, depuis 2010, bah en fait, je suis indépendant, consultant, et je développe avec LinkedIn l'expertise de LinkedIn, et en même temps, ça me permet aussi d'aller me connecter avec des interlocuteurs, des professionnels. Et en fait, ce que je fais, c'est ce que j'appelle moi de l'influence professionnelle. Je suis en contact avec d'autres professionnels, on échange. LinkedIn est un hub de connexion pour pouvoir se rencontrer. Et puis, c'est un hub de conversation également, avec quand même, moi, mon objectif dans l'usage que j'en ai, c'est d'en sortir et de rencontrer les gens dans la vraie vie.
Ouais. Alors justement, tu parles souvent d'influence professionnelle, d'autres parlent de personne, professional branding, pas de personal branding, mais de professional branding. On parle de social selling, on parle de prospecter sur LinkedIn. Dis-moi, qu'est-ce que c'est l'influence professionnelle pour toi? Et bah justement, comment on s'en sort et comment on passe en fait souvent d'un usage de réseau personnel? On sait que la plupart des gens ont un Facebook, ils ont un TikTok, ils ont un Instagram. Et comment on passe de cette sphère personnelle à un usage vraiment professionnel de cette plateforme comme LinkedIn?
Bah, ce que moi j'appelle l'influence professionnelle, c'est ni plus ni moins que ce que l'on fait tous les jours, mais que ce que l'on faisait même avant d'avoir des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est en interaction avec des collaborateurs, avec des partenaires, avec des clients, des prospects, avec ses managers ou les gens qu'on peut manager. On est en fait en interaction avec d'autres professionnels et on développe de l'influence. Alors, ça ne s'appelait peut-être pas forcément comme ça. À une époque, on parlait de réputation en ligne. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans de l'influence. Et à partir du moment où tu peux prendre la parole sur des médias, alors des blogs, des sites web, des plateformes communautaires et des réseaux sociaux, et que tu as une audience, et ben en fait, tu es en capacité d'influencer cette audience, de même que tu te fais toi-même influencer par ton audience. Donc c'est cette notion, en fait, pour moi, de conversation qui nous permet déjà, en tant qu'être humain, de communiquer et de développer ce que j'appelle cette influence professionnelle. Et effectivement, j'ai pris le terme après par rapport à LinkedIn, et parce que je suis essentiellement dans le B2B, du terme professional branding que je préfère au terme de personal branding. En fait, c'est juste un moyen également de faire comprendre à mes clients qui sont plutôt des équipes dans des TPE, PME ou dans des grands groupes, de sortir de l'image qu'ils peuvent avoir des réseaux sociaux dans lesquels ils mettent tous les réseaux dans le même sac, de les sortir en fait du côté grand public, les Facebook, les Twitter, aujourd'hui effectivement TikTok et autres, et de les placer dans leur dimension professionnelle, dans leur métier, dans leur entreprise, et de leur dire que vous êtes en interaction avec d'autres professionnels, vous avez une marque professionnelle que vous pouvez développer sur une plateforme LinkedIn qui est la seule aujourd'hui, le seul réseau, la seule plateforme qui est plutôt professionnelle B2B. Et donc, changez un petit peu votre vision pour travailler que votre côté professionnel. On ne va pas parler de votre vie privée, de votre vie personnelle. Et donc, ça me permet de les placer dans un contexte où ils sont plus à l'aise pour bah, qu'on puisse développer en fait derrière l'atelier, la formation et ce que je vais leur faire pratiquer.
D'accord. Ben justement, là, je trouve que c'est excellent parce que justement, moi aussi, c'est un petit peu ma philosophie, c'est me dire, OK, je vais mettre en avant mon expertise, l'expertise de l'entreprise, mais pas l'entreprise, je ne fais pas de la publicité, de la promo, mais justement, j'essaie d'apporter ma propre valeur ajoutée. Pourtant, on voit, il y a pas mal de gens qui mettent leur vie personnelle, photos de vacances, etc., etc. Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus?
Après, j'ai envie de dire que chacun fait ce qu'il veut sur LinkedIn. Chacun peut y déployer sa marque personnelle, sa marque professionnelle. Moi, je me place dans un contexte où je me dis que LinkedIn, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail comme on a un ordinateur portable, comme on peut avoir un téléphone portable, un bloc-notes. J'ai un outil de travail qui me permet de me connecter avec d'autres professionnels. Dans ce cadre-là, je n'ai pas envie d'étaler ma vie privée. Et donc, je dois l'utiliser, mais comme je me comporterais au sein de l'entreprise. Alors, évidemment, avec ses collègues dans un réseau fermé, je peux parler de ma vie privée. Mais là, je suis sur une plateforme publique. C'est plus comme si j'allais dans un événement où je peux m'exprimer et des gens qui ne me connaissent pas peuvent m'entendre. Et donc, on a un besoin, si je veux me placer comme outil de travail, en fait, c'est surtout que de par le fonctionnement également de LinkedIn qui donne une image très partielle de qui on est en ne donnant pas, en n'affichant pas, en fait, en n'imprimant pas tout mon contenu à l'ensemble de notre réseau. On a cette vision partielle, c'est toujours un petit échantillon pour vérifier qu'on est intéressant pour notre réseau et qui va s'engager dessus et nous donner un petit peu plus de visibilité. J'ai besoin d'être concentré dans mes prises de parole sur mon expertise. Expertise individuelle et expertise que je développe au sein d'une entreprise pour que mes interlocuteurs puissent comprendre ce que je peux faire pour eux professionnellement. Et donc, si je pars dans le côté un peu trop privé, alors oui, peut-être que les gens vont m'apprécier, mais c'est pas un outil, ça devient plus un outil de travail, ça devient un outil de divertissement, si tu veux. Et donc, je suis très, très ancré dans outil de travail, donc comportement plutôt professionnel, même si on peut y mettre de sa personnalité, ce qui n'est pas la même chose, pour pouvoir être compris sur l'expertise qu'on peut apporter et être contacté pour contractualiser si tu fais si t'es commercial, mais ça peut être aussi du recrutement, ça peut être des partenariats, ça peut être participer à une table ronde, à un événement, faire une conférence. En fait, il faut en amont, quelque part, se dire quel objectif je veux atteindre dans ma vie professionnelle, quelle est ma trajectoire, quelle est… alors, est-ce qu'on peut encore parler de carrière? Ça, je ne sais pas encore. Mais qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? De manière, en fait, à savoir sur quel sujet je dois prendre la parole, sur quel sujet je dois m'exprimer pour être identifié sur cette expertise qui va me permettre d'avancer dans mon influence professionnelle et dans ma vie professionnelle.
Ouais, tu parles un petit peu de cette aura qu'on doit avoir dans un secteur d'activité, cette expertise. Mais justement, souvent dans les entreprises, il se passe quelque chose de très simple, c'est que l'entreprise, par son service marketing, souvent génère des contenus via la page. Et le commercial ou le marketeur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit relayer comme ça de manière bête et méchante? Est-ce qu'il doit réinterpréter? Parce que souvent, un commercial, on lui dira, t'es bien gentil de faire du social selling, t'es bien gentil d'aller sur LinkedIn, et moi, ce que je te demande, c'est de faire des rendez-vous, c'est d'appeler les gens au téléphone, c'est de faire des devis. Comment il arrive à concilier ça et à quel niveau? Parce que je pense que tu dois bien ménager les deux susceptibilités. Ou alors, est-ce qu'on doit apporter une nouvelle corde à son arc et se dire, bah tiens, j'ai le téléphone, j'ai l'email, et ben maintenant, je dois également utiliser LinkedIn comme un nouveau canal de communication.
Alors, ce que tu dis, oui, LinkedIn, c'est un canal de communication comme l'email, comme le téléphone. La particularité, c'est que quand tu écris un email, tu écris à une personne. Quand tu téléphones, il faut que la personne décroche et tu es en one-to-one, on va dire. Alors que quand tu prends la parole sur LinkedIn, tu peux parler en fait à tous tes clients en une seule fois. À tous, non, parce qu'il y a encore cette vision partielle, mais si tu as bien construit ton réseau, tous tes interlocuteurs sont… ou tes clients, ou tes prospects, ou tes prescripteurs, ou des partenaires. En tout cas, c'est ton écosystème professionnel qui est cohérent avec ton activité et celle que tu développes aussi au sein de l'entreprise. Et donc, la capacité, c'est d'être en conversation, entre guillemets, continue et asynchrone auprès de ton écosystème professionnel en prenant la parole dessus. Alors, les commerciaux, on parle de social selling. Ouais, mais le social selling, je dirais, c'est du temps long. C'est-à-dire que tu vas nouer un relationnel pour être identifié comme un apporteur de solutions, comme un leader d'opinion, parce que tu fournis des bonnes informations à tes interlocuteurs qui vont t'avoir à l'esprit au moment où ils veulent résoudre un problème et ils t'ont identifié comme étant un des solutionneurs possibles. Et donc, il y a une notion de temps long. Et là où tu as raison, c'est quand tu dis, ouais, mais tu dois faire des chiffres, tu dois faire des rendez-vous, etc. Si le management n'intègre pas dans sa revue mensuelle cette notion de temps long et qu'il est que basé sur du temps court, c'est tu as fait ton chiffre ce mois-ci, oui ou non, ça ne peut pas marcher. Le social selling, c'est bien, mais c'est une dimension qui doit être prise en compte par l'ensemble de l'entreprise et pas seulement le commercial. Parce que si le commercial subit la pression du chiffre, il va aller au plus court. Et je l'ai déjà vu avec des personnes qui m'ont dit, mais j'ai pas le temps, moi je prends mon fichier, j'appelle, et parce que j'ai besoin de signer les 3, 4, 5, 10, 15 000 euros pour finir mon mois, quoi. Donc il y a cette notion de temps long, et en fait, le temps long va permettre de répondre aux impératifs du temps court à un moment donné. Mais parce que tu vas être dans un roulement où tu vas être capable d'avoir un relationnel avec tes clients, et là tu vas pouvoir les appeler. Peut-être pour identifier un besoin ou répondre à un besoin. Et donc, là, tu pourras avoir une réactivité un peu plus intéressante au mois, mais il faut que ça s'installe dans la durée avant.
Ouais, mais c'est vrai que tu as raison. Chez nous, il y a un de nos commerciaux qui s'appelle Jean-François, et c'est vrai qu'il nous dit, moi, c'est un investissement que je fais parce que je sais que je vais signer un dossier avec le social selling chaque année. Alors ça lui prend du temps, il publie régulièrement, il fait des commentaires sur les publications, il republie ce qu'on fait au niveau des locaux, mais il crée quelquefois des publications, mais comme tu l'as dit, il ne trouve pas forcément le temps, mais au moins il fait le travail de relayer. Nous, on a un petit email en interne qui est envoyé tous les jours par notre responsable réseaux sociaux et qui dit, tiens, voilà la publication du jour. Si vous pouvez liker, commenter et partager si ça vous paraît pertinent, ce qui permet déjà d'avoir un minimum d'interaction et de travailler là-dessus. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as une phrase qui m'a toujours marqué et que je répète très régulièrement, c'est copyright Bruno Frilanski, c'est Your fucking product is not my fucking solution. C'est quelque chose qui est assez intéressant à retenir.
Ouais, ça en fait, c'est que. Mais alors, c'est ça qui est assez paradoxal, surtout avec les dérives qu'on peut voir dans cette dimension social selling sur la partie. Bon, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais la partie automatisation. En
Ouais, bien
fait,
sûr.
on te forme, ou quand tu es dans une formation, entre guillemets, à l'ancienne, quand on te forme je dirais, à la démarche commerciale, on t'explique qu'il faut que tu écoutes ton client, qu'il faut que tu comprennes son besoin pour pouvoir faire une réponse adaptée. LinkedIn, c'est fabuleux pour ça. C'est-à-dire que la phase de décision pertinente, en fait, elle est open bar. Tu vas sur LinkedIn, tu vas voir les profils des personnes ou même de son environnement. Tu vas aussi sur Internet, tu captes de l'information pour déjà ne pas avoir la solution, mais déjà connaître un peu mieux ton interlocuteur et pouvoir nouer cette conversation qui va te permettre d'être plus pertinent. Là où je reproche la mauvaise utilisation de l'automatisation, c'est que on voit LinkedIn comme une sorte de base de données, et en fait, on fait des critères de ciblage et on automatise la prise de contact. Et donc, tu reçois des demandes de personnes que tu ne connais pas, mais qui sont déjà dans la vente, à te proposer leur solution, à te proposer un rendez-vous, alors que en fait, elles n'ont même pas pris le temps, à la limite, de te dire bonjour, si tu veux. Donc,
Ah,
c'est
je
en
suis
ça
d'accord
où
avec
c'est.
toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Les demandes de rendez-vous en disant on a une solution, est-ce que vous pourriez la regarder? Mais tout de suite, même moi qui suis quand même pourtant assez ouvert et assez compréhensible sur le sujet, je vais refuser direct, quoi.
Mais ouais, et là, on a, je pense, sur la plateforme, on a dépassé le seuil de tolérance. Pourquoi je dis ça? Parce que quand des gens comme moi, qui sont concernés par une autre approche, gueulent, mettent en avant les mauvaises pratiques, c'est bien, mais en fait, je prêche pour ma paroisse. Quand aujourd'hui, tu vois des gens qui ne sont ni concernés par une formation, conseil, accompagnement LinkedIn, ni concernés forcément par, je dirais, même de l'approche commerciale, de la formation commerciale, qui sont juste des gens qui subissent des demandes de connexion qu'ils trouvent complètement claquées au sol, comme disent les jeunes, qui ne les concernent pas, et qui commencent à s'exprimer, et que tu en as un, deux, trois, que c'est sur des blogs, c'est sur d'autres réseaux sociaux, même sur LinkedIn, tu te dis. On a été un peu trop loin et en fait, bah, les gens on a dépassé ce que j'appelle le seuil de tolérance. Les gens en ont ras-le-bol et vont s'exprimer sur cette démarche qu'ils subissent, alors qu'ils ne sont ni concernés par les outils d'automatisation, ni concernés par la démarche de social selling, ni concernés par LinkedIn en tant que tel. Et donc, ben, tu te dis, on a été un peu trop loin là-dessus. Comment on peut récupérer un petit peu le sujet? Parce que ça veut dire que derrière, si toi, tu as une bonne démarche, de toute façon, tu vas être confronté à une réaction première qui risque d'être négative par ton approche, parce que bah aujourd'hui, hein, c'est comme sur les sites web, tu vois une bannière de pub, bah en fait, tu ne la vois plus parce que tu sais que là, c'est un bandeau de pub. Et tu les as, ton cerveau l'a complètement annihilée, même si elle est pertinente ou quoi que ce soit.
Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai discuté avec Laurent, qui est responsable de l'expérience client dans une grande entreprise. Et il me disait, non mais Fred, t'es bien gentil. Moi, je reçois une dizaine de messages par jour de gens qui veulent devenir contact avec moi ou qui me proposent des choses. Et c'est vrai que, comme toi, tu l'as dit en première partie, il faut travailler ton professional branding. Moi, je commence toujours par publier du contenu intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, hey Fred, ton contenu, je trouve ça intéressant. J'aime bien ce que tu écris, blablabla. Et c'est uniquement après. Mais par contre, que je suis d'accord avec toi, l'automatisation mal faite, c'est vraiment à jeter, il faut vraiment le pas le faire.
Ouais.
Moi, j'essaye d'automatiser de manière raisonnée. Alors, bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord. Voilà, je comprendrai tout à fait. Par exemple, je te donne un exemple. Là, je fais un webinaire au mois de mai, dans un mois à peu près, avec TNP Consultant, ce sera sur le thématique de l'omnicanal dans la banque. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai construit au fil des années un réseau dans le domaine expérience client. Je fais une petite extraction de sélection de personnes qui sont vraiment dans ce domaine-là. Et surtout, je ne vais pas en fait leur dire, hey, viens à mon webinaire qui est super sympa. Généralement, moi, je leur dis, bah, tiens, on va faire une étude, mais c'est vrai, une étude qualitative auprès. Moi, j'essaye d'avoir un minimum de 40 personnes qui répondent. Et je leur dis, bah, voilà, quels sont vos défis à vous sur la relation client, quels sont les bons conseils, quelles sont les bonnes pratiques, etc., etc. Et je me sers en fait de ça en disant, tiens, il y a un truc qui va être sympa, vous allez pouvoir trouver du contenu, donnez-moi votre avis. Et après, si vous voulez ou si vous voulez pas, eh ben, en fait, vous pourrez assister au webinaire. Et c'est vrai que moi, je l'ai constaté. Grosso modo, les gens qui répondent, il y en a les 75% qui veulent participer au webinaire. Et 25 autres, ben, tant pis pour vous. Ben, vous n'aurez pas les réponses, vous n'aurez pas les données. Ça ne me gêne pas, ce n'est pas très grave. Mais c'est un moyen, je pense, qui est un peu plus intelligent que justement faire de la vente comme ça, un petit peu trop direct.
C'est ce que moi, j'ai appelé derrière la démarche journalistique pour les commerciaux. C'est-à-dire, intéresse-toi à ton interlocuteur. Capte de l'information, propose-lui de l'information, propose-lui de s'exprimer sur ses sujets à lui. Et donc, comme un journaliste, en fait, et tu fais une étude, tu fais un article, tu recueilles de l'information, ce qui va, à un moment donné, automatiquement, il va te demander, mais pourquoi vous faites ça, dans quel cadre, qu'est-ce que vous faites? Et donc, tu vas pitcher, mais tu n'es pas frontalement pour lui vendre une solution. Tu vas créer un relationnel qui va te permettre de vendre ta solution après. Alors, peut-être dans un temps très court, parce que c'est le bon timing et qu'il a un besoin, mais ça peut être dans 3 mois, 6 mois, voire plus. Il faut accepter ce temps long, et c'est assez compliqué aujourd'hui quand on est pressé de vendre, quoi.
Exactement. Alors, justement pour toi, au niveau du social selling, est-ce qu'on a dépassé un cadre, on a dépassé une limite? Est-ce que c'est un changement? Est-ce qu'on ne fait plus maintenant du social selling comme on le faisait avant? Ça a bougé?
En fait, il y a une nouvelle dimension qui est arrivée. Disons que dans le social selling, avant, on parlait beaucoup de LinkedIn. Maintenant, tu as des possibilités de faire du social selling, mais de l'élargir et d'utiliser le téléphone, le cold calling, d'utiliser l'email, le cold email, et de mixer aussi les canaux. Alors après, le pire, c'est, j'ai envie de dire, mixer les canaux, c'est bien, mais quand je reçois un message sur LinkedIn qui me dit hey, « je t'ai envoyé un mail, mais tu ne m'as pas répondu », là, j'ai envie de dire, les gars, vous tirez une balle dans le pied, c'est pas la bonne démarche. Mais si tu veux utiliser LinkedIn pour avoir l'information et après appeler la personne, fais-le par téléphone. Tu peux coupler effectivement avec l'email. Donc, le social selling, c'est affranchi, j'ai envie de dire, de simplement être sur LinkedIn. Et je pense qu'avant, c'était nouveau, on défrichait, c'était… pas facile, mais c'était logique. Aujourd'hui, LinkedIn, au-delà du social selling, alors c'est avant tout, je pense, encore une plateforme de RH, de recrutement, et LinkedIn fait, je n'ai pas le détail des chiffres, mais sur les licences qu'ils vendent, c'est la licence RH qui quand même reste majoritaire, Mais tu utilises aussi LinkedIn pour répondre à des problématiques de notoriété de l'entreprise et la marque employeur quand tu vas travailler notamment cette dimension d'employé advocacy, c'est-à-dire comment faire en sorte que tes collaborateurs soient aussi en capacité de répondre à des sollicitations de candidats, voire identifier des candidats et prendre contact avec eux. Le recrutement sera toujours dans la filière RH avec les process habituels, mais on a des portes d'entrée supplémentaires pour pouvoir attirer les talents et puis détecter des talents. Alors, ce qu'on appelle des talents, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on parle comme ça, qu'on les qualifie comme ça, mais ça, on sort en fait, le social selling, si tu veux, en fait, quelque part, tout le monde participe au social selling, puisque la finalité d'une entreprise, c'est de vendre produits, prestations, services, peu importe. Donc tout le monde, à un moment donné, fait partie, un, de la relation client, deux, de la vente, deux, de l'attractivité de la marque. Donc on a des fonctions plus précises, social selling, c'est plutôt les commerciaux. Mais tout le monde participe en fait à cette satisfaction finale des clients, que ce soit de signer un contrat ou pas. Donc ça évolue. Après, aujourd'hui, la grande tendance, c'est outre les outils d'automatisation et l'enrichissement des bases de données, de la data, c'est aussi l'IA dont tu vas certainement me parler à un moment donné, où aujourd'hui, j'ai l'impression que alors l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va servir et qui est déjà là depuis très longtemps et qui va servir dans différentes entreprises. Si on se limite à LinkedIn, on est sur de l'IA générative, les fameux chats GPT qui vont écrire à ta place. Et là, je me pose des grandes questions parce que quand tu vois qu'on te propose les prompts magiques pour faire 365 contenus à l'année en cliquant sur un bouton, c'est pas du relationnel. Tu viens dans de la communication descendante, c'est pas du relationnel, conversation avec un humain. Quand tu vois des IA qui vont t'écrire un commentaire à une publication et que les gens vont l'utiliser, ce qui me gêne, c'est les gens qui vont l'utiliser. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de lire un contenu et de savoir toi-même quoi commenter et que tu utilises une IA pour ça, mais il se passe quoi quand tu vas aller dans la vraie vie? C'est-à-dire quand tu es commercial, tu vas chez le client, il te pose une question, tu ne sais pas répondre? Tu es obligé de prendre ton téléphone, de poser la question à une IA pour avoir la réponse. Tu vois, il y a un moment donné, la techno, c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux en faire par rapport à toi, humain? À quoi tu veux servir? Après, il ne faut pas se plaindre qu'on va se faire remplacer si on délègue déjà notre pensée à des machines. Donc, il y a une évolution avec des gens qui veulent rester. Je ne vais pas dire à l'ancienne, mais sur du concret en relationnel. Tu en as d'autres qui vont y mettre une dose de techno. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un bouillon de culture qui va très vite, peut-être même trop vite. On verra bien ce que ça donnera. Mais ce qui me gêne le plus, en fait, c'est que LinkedIn est tout seul sur le marché. Ils n'ont pas de concurrence dans cette forme B2B professionnelle. Et donc, il n'y a pas de challenger ou de gens qui viennent titiller un peu leur pratique, ce qu'ils veulent faire. En plus, ils prennent une direction qui, pour moi, sur certains trucs, tu vois, ils vont faire des vidéos à la TikTok.
Oui.
Et pourquoi faire du TikTok alors que tu t'appelles LinkedIn et que tu es dans un domaine professionnel, sauf à vouloir en sortir?
Ah, ils veulent faire plus de volume. Moi, je pense que c'est ça, c'est qu'ils veulent faire plus de volume. Que les gens, au lieu d'aller sur TikTok, ils aillent sur LinkedIn. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Tu as une course au B2C et au faible contenu, au contenu fin, au snack content. Ce qui, justement, pour moi, n'est pas dans le bon sens. Parce que, justement, ta valeur ajoutée, tu vas plus l'expliquer. Tu vas essayer de faire du sensationnel. Et comme tu l'as dit, hein, les publications ChatGPT, c'est comme, en fait, les images générées avec l'IA. Finalement, on les repère ce matin. J'étais en train de lire une publication et je me dis, mais. Mais c'est du ChatGPT, en fait, il y a le script, au début j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ci, ensuite j'ai fait ça, et finalement c'est ça la conclusion. Et là tu dis...
Alors, en fait, tu vas aussi avoir des effets de bord, ce que j'appelle les dommages collatéraux. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est les IA génératives, si tu veux, se base sur des corpus de contenu qui sont déjà la façon dont on s'exprime, et qui vont faire une moyenne et te le sortir. Ce qui risque
Bah
de se
d'ailleurs,
passer.
il y a des mots qui arrivent régulièrement et ils ont fait une étude, c'est que en fait les correcteurs qui maîtrisaient l'IA et qui lui apprenaient l'IA étaient d'origine africaine et donc en fait il y a des mots qui ressortaient qui n'étaient pas du français européen mais qui étaient plutôt du français d'Afrique en fait.
D'accord. Ouais, mais de toute façon, en plus, les corpus, toutes ces bases-là sont beaucoup aussi occidentales, américaines. Donc, tu as aussi, je dirais, la culture qui est
Le
derrière.
hey, la compagnie. Alors ça, c'est vrai que quand tu demandes à ChatGPT de générer une publication, il va dire hey, les gars, ou un truc comme ça. Mais c'est pas du tout ce
Ouais.
qu'il faut. C'est pas le français quoi, qui s'exprime comme ça.
Exactement. Le problème, c'est que toutes les personnes qui écrivent déjà ou qui rédigent déjà avec une structure, comme tu l'as détaillé tout à l'heure, qui vont le faire naturellement, mais qui en fait vont trop ressembler à ce que l'IA ressort. Et donc, ils vont tomber dans, on va les accuser d'avoir utilisé l'IA, alors qu'en fait, ils ne l'ont peut-être pas utilisé.
Ah ouais, d'ailleurs, ouais, voilà un exemple concret. Il y a Jérôme O'Haraud et Morgane Février qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Les 7 piliers du leadership. Et je leur dis, bah,
Ouais.
tiens, est-ce que tu peux me faire une petite interview écrite parce que là, je n'ai pas le temps de faire une vidéo. Est-ce que tu peux me dire ça, 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 ça? Et puis, en fait, moi, j'ai pris le réflexe maintenant que chaque fois que quelqu'un m'envoie une publication invitée, je les passe en fait dans un anti-GPT. Alors, je le fais juste. Ah, je me suis dit, bon, allez, je le fais comme ça, un truc de vérification. C'est ce qui s'appelle Originality. Et j'arrive à un truc sur 90% d'IA. Je dis, oh putain, Jérôme, t'as tout rédigé par l'IA. Et puis il me dit, non, ben non, c'est moi qui l'ai écrit. Et en fait, il
Ouais.
écrivait tellement comme en bon français que son contenu était passé comme un contenu généré par l'IA.
Ouais. Non, mais c'est ça le problème. Après, alors, je sais qu'il y a des IA qui veulent détecter les IA, mais autant dans le texte, dans l'audio, la vidéo, l'image, tu peux mettre des watermarks pour dire, ça a été, au moment où tu crées le contenu, tu as là une watermark, c'est-à-dire une identification de l'origine IA, mais sur un texte, tu fais comment?
Alors, tu peux pas.
Ben ouais, c'est ça toute la difficulté. Et ça va être complexe parce que de toute façon, toutes ces IA, elles vont être je dirais, meilleures. Elles vont s'améliorer, elles vont être de plus en plus pertinentes, elles ne peuvent que progresser, elles ne peuvent que devenir de plus en plus comme notre conversation qu'on est en train d'avoir là, avec des hésitations, avec des phrases que tu commences, puis tu repars pour la refaire. Surtout, bon, si tu ne coupes pas, donc en fait, il faudrait être mauvais pour être identifié comme humain bientôt, parce que les IA seront trop perfectionnées.
Ouais. Bah justement, là tu parles beaucoup de texte, on a évoqué un peu la vidéo. Quels sont pour toi les formats qui marchent le mieux? De mon côté, en fait, moi je me rends compte que j'aime bien réutiliser des contenus. Tu vois, je me suis amusé à reprendre des vieux articles de blog de 2015-2018 sur des sujets intemporels, quoi. Par exemple, comment faire une présentation à l'oral, les bons conseils pour faire de la gestion de projet. J'ai repris ces articles-là, je les ai mis sous forme de carrousel et ça a cartonné. J'ai fait également, bah, tu l'as dit, les petites vidéos à la TikTok. Moi j'aime bien le faire quand je fais une promo de webinaire parce que c'est vrai que le sous-titrage quand les gens regardent pas les ont pas le son en fait je trouve que c'est pas mal. Je fais également bah, comme tout le monde un petit peu des images plus du texte. Moi je me rends compte que ce qui marche quand même pas mal c'est le carrousel, le sondage de temps en temps mais ça pue la vérité que ça va auparavant, les vidéos pas mal, le texte c'est plus compliqué à tirer à l'œil. Toi de ton expérience qu'est-ce que tu préfères déjà toi comme contenu et qu'est-ce que tu recommandes? Et alors, sans parler de la newsletter, parce que c'est vrai que j'invite tout le monde à s'inscrire à ta newsletter où tu donnes tous tes trucs et astuces, puisque la newsletter, c'est les articles et ça permet d'envoyer à sa communauté un truc en plus, mais là, au niveau des contenus, publications.
En fait, alors il y a des études qui sont faites à chaque fois, savoir quel est le format qui marche le mieux, etc. Mais le problème de toutes ces études, c'est qu'elles sont sur des corpus de base qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a un gros biais. Les seuls qui ont les données, c'est LinkedIn. Et ils ne te donneront jamais ça. Après, on peut faire des analyses. Alors, effectivement, un carrousel, ça marche bien. Tu parlais des sondages. Quand ils ont lancé les sondages, ça a cartonné, mais parce qu'ils ont poussé la fonctionnalité, etc. En fait, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut prendre le format sur lequel on est le plus à l'aise. Tu en as qui ne savent pas s'exprimer par écrit, qui ont peur de faire des fautes. Alors, même si tu as plein de correcteurs, etc., s'ils sont plus à l'aise à la vidéo, qu'ils fassent de la vidéo. On s'en fout que ça marche ou que ça ne marche pas. L'intérêt, ce n'est pas de parler à un algorithme pour avoir des impressions, de la visibilité. L'intérêt, c'est qu'on ait une audience qui nous écoute et qui réagisse. Sachant que de toute façon, le business se fait dans ce qu'on appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire des gens qui ne likeront jamais, qui ne commenteront jamais, mais qui écoutent et qui vont nous parler, peut-être en message privé, et qui vont nous parler dans la vraie vie ou nous recommander dans la vraie vie. Donc ça, une fois qu'on a compris que c'est la majorité silencieuse, on parle de 90% a priori de la... De la je dirais, de l'audience. Donc, une fois que tu sais ça, tu parles à cette majorité silencieuse. Certes, on aime bien avoir des likes, avoir des commentaires, des republications, nous donne plus de visibilité. Ça, on est d'accord. Mais ce qu'il faut pour moi, c'est vraiment être sur un format sur lequel on est à l'aise et surtout un format sur lequel on a et la ressource temps disponible et la ressource financière disponible. Parce qu'un carrousel, il faut savoir quelque part le faire pour créer un contenu d'un point de vue visuel qui soit un minimum agréable à lire. Ce n'est pas un traitement de Word, une page Word, un carrousel. Faire de la vidéo, il faut savoir se filmer, il faut avoir un peu la lumière, il faut le son, il faut faire peut-être un peu de montage, il faut savoir faire les sous-titres, même s'il y a des outils aujourd'hui qui le font automatiquement. Mais il faut en fait maîtriser aussi la techno. Et puis, moi, je suis intimement persuadé que LinkedIn, son algorithme, en fait, prend l'habitude du format que tu utilises régulièrement. C'est-à-dire, si tu fais que du texte, LinkedIn va s'habituer à ton texte et ton audience va s'habituer à te lire. Et donc, ça va être différent. Si tu te mets d'un coup à faire des carrousels, d'un coup à faire que de la vidéo, et tu changes ton format. Donc, t'en as qui vont me dire, il faut varier les formats pour ne pas lasser son audience. Bah, pour moi, c'est du bullshit, ça. Est-ce que tu as déjà vu un média papier se dire, oh, bah, on va arrêter, on va faire que de la vidéo? Ah non, on va arrêter le papier, on va faire que de l'audio. Mais non, en fait, on crée une audience, on crée une habitude, on devient un média et on a un format de média. Alors après, moi, je suis plutôt sur que du texte parce que ça m'arrange. J'ai plus de temps pour faire que du texte. De temps en temps, je mets de l'image. Enfin, je mets souvent une image, mais c'est plus une image, une illustration pour avoir accompagné mon texte. Il m'arrive de faire rarement un sondage. Des carrousels, j'ai moins le temps. Ça me prend
Ouais,
du
c'est
temps.
plus long.
Oui.
En fait, moi j'ai un modèle sur Canva et je
Voilà.
délègue à mon assistante. Je lui dis, tiens, prends mon article de blog, fais-moi, tu prends les titres, tu prends un petit résumé et après, en fait, je le retravaille parce que, comme avec l'IA, tu peux pas redonner ton expertise à quelqu'un. Moi, j'ai fait une croix sur le fait de dire que je pouvais donner mon expertise à quelqu'un, c'est pas possible. Mon niveau d'exigence est trop important.
Oui, voilà. Après, l'IA, moi, je préfère l'utiliser de la façon suivante. C'est-à-dire que la plupart des gens vont me dire, tiens, tu vas faire un super prompt pour que tu m'écrives un super article. OK?
Non, c'est pas
Mais
possible.
ça, je trouve ça un peu. Enfin, OK,
Bah, enfin,
on peut
moi,
le faire, mais bon.
je fais une croix dessus, c'est pas possible. Enfin, moi,
En
même moi qui
revanche, moi,
suis un pro, je dirais.
ouais. Alors, moi, je le fais dans le sens inverse. Je fais un prompt pour lui donner un peu le contexte et tout, mais je lui demande de me poser 10 questions sur le sujet sur lequel je veux écrire un article. Et donc, je vais lui répondre. Et après, je lui dis d'écrire un article à partir de mes réponses. Et puis après, je le
D'accord.
retravaille pour l'adapter. Mais au moins, il va me sortir un sujet avec mes propres idées et pas les siennes et de ce qu'il aurait été chercher à droite ou à gauche. Parce que le vrai problème, c'est que si tu fais écrire tes articles par une IA, c'est-à-dire t'arrêtes de penser, t'arrêtes de réfléchir, t'arrêtes de chercher à formaliser ta pensée, ta réflexion. Et tu vas te retrouver derrière à faire peut-être une bonne publication, mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas rencontrer les gens dans la vraie vie et qui vont dire, ouais, ton article était super intéressant, comment tu as fait pour. Où est-ce que tu as eu cette idée et tout? Si ce n'est pas toi qui l'as écrit, enfin, non, ce n'est pas ça là. Si ce n'est pas toi qui l'as réfléchi,
Ouais.
comment tu peux répondre derrière et que tu peux rester cohérent et sur ton
Ouais, puis c'est
sujet à
surtout
tes
générique.
interlocuteurs?
Moi, je trouve que c'est trop générique. C'est des idées du tout venu, du tout du qu'on a déjà vu 50 000
Ouais.
fois. Et c'est moi,
Ou
je trouve que
alors
la
il faut que
valeur
tu
ajoutée, c'est la
sois
soumission.
ouais, ou alors il faut que tu sois expert en prompt engineering et alors à ce moment-là tu fais des prompts de 6 pages, bah, autant passer du temps à écrire ton article.
Ben justement, c'est vrai que pour moi, ce qui est aussi important, c'est créer du lien. Par exemple, tu vois, ma résolution depuis 1 an et quelques, c'est de souhaiter l'anniversaire de professionnels et personnels de tous mes contacts. Parce qu'en fait, c'est ma manière de dire. C'est vrai qu'on avait déjà échangé là-dessus. Toi, tu disais, si tu le ferais dans la vraie vie, est-ce que tu le ferais? Moi, dans la vraie vie, je le ferais. Et donc, c'est tout à fait
Ouais.
naturel pour moi. Donc, moi,
Alors,
je crée de lien. Cette création de lien, pour moi, elle est importante.
je suis d'accord, mais si tu as déjà une relation avec ces personnes-là,
Ouais,
mais.
alors justement, moi, justement pour cette partie relation, il y a depuis 2 ans, ce que je fais sur les salons, je fais des selfies avec nos clients, nos partenaires et nos prospects. Ce qui veut dire qu'après, c'est vachement plus simple de souhaiter les anniversaires, de montrer que je suis quelqu'un d'humain.
Oui, exactement. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui te parle jamais dans l'année et qui vient te fêter, et qui te parle une fois dans l'année pour te fêter ton anniversaire. Et là, tu te dis, mais En plus, tu sais plus qui c'est, puisqu'on ne se parle jamais. Tu l'as peut-être croisé effectivement à un salon, tu t'es connecté ou une demande de connexion. Donc, c'est pour contrecarrer ou contrebalancer plutôt tout ce qui est IA, on va revenir à du basique humain.
Tout à
Tu vois?
fait. Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est que justement, LinkedIn, je crois que j'ai vu que c'était dans les tapettes, de pouvoir automatiser cet aspect anniversaire professionnel. Pour l'instant, c'est du manuel. Il faut que tu ailles dans birthday, enfin, événements et tout ça. Et là, j'ai entendu dire qu'ils allaient peut-être automatiser ça. Je trouve ça un petit peu dommage parce que
Et
tu
ouais.
arrives justement à des IA qui parlent à des IA et là, tu ne pourras plus créer ce lien ou des gens qui créent
Exactement.
ce lien ne feront peut-être pas la différence.
Et là où moi, je suis pas très non plus. Alors, l'anniversaire de naissance, ça va, mais l'anniversaire dans une boîte, faut y aller avec des pincettes. Surtout si tu connais pas la personne. Tu vas pas fêter les 3 ans de quelqu'un dans une boîte si tu lui parles jamais et tu sais pas qu'il est en burn-out, qu'il est pas bien dans son job et quoi que ce soit, et tu vas lui dire, hey, super, ça fait 3 ans que tu es dans la boîte, félicitations. Ben, en fait, tu es en décalage
Je pense que
complet.
le pire, et ce qui est le moins bien, mais pourtant ça m'est arrivé, c'est en fait les gens qui mettent un nouveau poste, mais qui en fait dans la même boîte. Et des fois, bon, je dois t'avouer que je suis un peu rapide, et les mecs ils me disent, non, mais Fred, c'est juste un changement de job. Je dis, ah, zoups,
Eh
j'avais
ouais.
baissé. Là, tu te dis, oh merde.
Ouais,
Ou alors,
complètement.
c'est comme par exemple pour l'automatisation, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis pour. Chacun voit sa midi à sa porte. Hein. Moi, je suis pour automatiser le premier message, mais le second, surtout pas l'automatiser, puisque et je sais qu'il y a certaines personnes qui le faisaient. Et en fait, le problème, c'est qu'ils prenaient le poste actuel. Sauf que quand tu vois une personne qui a marqué, comment dire, je cherche un job avec le petit rond vert, tu te rends compte qu'il ne faut pas lui souhaiter tout se passe bien dans telle boîte. Ça,
Ah
vraiment,
ouais.
s'il est en recherche d'emploi, c'est que généralement
Ah
ça
ouais,
se
c'est
passe pas très
ça,
bien.
tu vois. Et c'est là où c'est ce que j'appelle le mauvais usage de l'automatisation, parce qu'en fait, on a une masse d'informations à notre disposition pour être pertinent dans nos prises de contact sur LinkedIn. D'ailleurs, tu vois, par exemple, sur les comptes gratuits, LinkedIn va limiter la personnalisation des prises de contact à 5 par mois. Et ils vont passer, tu pourras toujours faire des demandes, mais non personnalisées, ils vont te limiter à 5. Donc on va avoir moins de personnalisation. Alors déjà, on n'en a pas beaucoup, mais on va en avoir encore moins. Donc comment tu fais pour prendre contact avec quelqu'un que tu ne connais pas quand tu veux personnaliser et que tu ne peux plus parce que tu as utilisé ton crédit? Comment
Ah
tu
bah
vas
oui.
recréer je dirais, de la pertinence ou que tu vas utiliser d'autres signaux pour te faire accepter dans ta demande? De quelqu'un, par exemple, qui veut absolument savoir qui lui demande pour construire son réseau. Parce que tu vois, il y a quand même une tendance qui explique, enfin, qui aujourd'hui, moi, c'était mon parti pris depuis toujours, mais aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui disent, ah non, il ne faut pas accepter n'importe qui et tout le monde dans ton réseau. Il faut que tu aies une certaine adéquation sur les sujets parce qu'ils vont réagir à tes contenus. S'ils ne sont pas concernés par tes contenus, OK, ça te fait un contact. Et ça sert à rien. Et aujourd'hui, tu as la solution qui s'appelle le follow qui est disponible. Hein.
Ah, tout à fait. Alors Bruno, l'heure passe. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et ton activité? On connaît donc le livre que tu as, enfin la quatrième édition du livre qui s'appelle Maîtriser LinkedIn, donc qui est Maîtriser LinkedIn, influence professionnelle, leader advocacy, social selling, marque employeur. Donc un titre en fait qui met en avant toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser avec LinkedIn. Est-ce que tu peux nous dire au-delà du livre ce que tu fais, ce que tu proposes?
Alors en fait, moi, je fais beaucoup de conseils et qui se délivrent sous forme de formation, d'accompagnement. Et je fais également des conférences auprès des équipes dans les TPE, PME et grands groupes pour leur permettre de maîtriser l'outil LinkedIn avec, je dirais, une intention d'atteindre des objectifs. Alors, ça peut être du social selling pour des commerciaux. De plus en plus, je fais aussi tout ce qui va être marque employeur, employee advocacy avec l'ensemble des collaborateurs pour participer à la notoriété et la visibilité de l'entreprise et puis à ces problématiques en tension dans le recrutement. Je fais également tout ce qui est dirigeant parce que je pense que les dirigeants sont, contrairement à ce qu'on dit, le collaborateur est le premier ambassadeur de l'entreprise. Pour moi, c'est faux, c'est le dirigeant. Et le dirigeant, en plus, il a un devoir d'exemplarité d'utiliser LinkedIn pour que ses équipes l'utilisent. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un outil personnel, individuel, qui appartient pas à l'entreprise, qui appartient, pardon, à chaque individu. Et donc, il faut qu'il y ait une exemplarité de l'usage. pour que tout le monde s'y mette et accepte d'utiliser un outil personnel, individuel, à destination de l'entreprise. Chacun va l'utiliser pour son job actuel, voire son futur job. Il faut aussi pouvoir l'utiliser pour la visibilité, la notoriété de l'entreprise. Et ça fait en fait partie aujourd'hui de cette dimension d'influence professionnelle. Donc voilà, je fais beaucoup de formations, beaucoup de conseils, beaucoup de conférences sur ce sujet-là, ce que j'appelle l'influence professionnelle, et que chacun soit à même de pouvoir atteindre ses propres objectifs qu'il faut définir en amont pour configurer un profil LinkedIn qui permette de les atteindre.
Tout à fait. Alors, donc, si on veut en savoir plus, donc bien sûr, on va chercher ton nom, prénom sur LinkedIn. Et après, est-ce que tu peux juste nous rappeler donc, ton site internet? Et je crois que tu as une newsletter LinkedIn qui est assez intéressante. Alors, dis-nous juste quelques éléments sur ces deux, trois choses.
Alors, effectivement, j'ai mon site consonaut.fr, qui est le nom de ma marque, si tu veux, qui est un mot valise que j'ai créé entre consommateur internaute à l'époque, donc ça a fait consonaute. J'étais assez fier de l'avoir trouvé, puis je l'ai gardé. Ça, au tout début, c'était le nom de mon blog, c'est devenu le nom de mon entreprise, et c'est derrière cette entité que j'exerce. J'ai aussi une marque, entre guillemets, qui est Maîtriser LinkedIn, parce que là, je suis focus avec le livre qui s'appelle Maîtriser LinkedIn.
Et c'est-à-dire derrière, ton hashtag.
Ouais, exactement. Et derrière, effectivement, moi, je viens du monde de la newsletter, de l'email marketing, puisque j'ai œuvré pendant 5 ans au moment où les réseaux sont apparus. Donc, j'ai une newsletter qui s'appelle Maîtriser LinkedIn, je peux chercher bien loin, que j'envoie tous les lundis à 18h pour des conseils, des tips, des astuces, des réflexions sur l'outil LinkedIn.
Ouais, même des exemples de publications de confrères. Hein. Je trouve que c'est vraiment intéressant.
Ouais, et que j'envoie sur une plateforme email externe, Brevo, pour ne pas les citer, donc un outil de routage qui n'est pas LinkedIn. J'utilise aussi Substack pour une autre newsletter qui est plutôt sur de la curation argumentée sur ma veille, que j'ai appelée Fier, en fait, parce que j'ai 4 rubriques qui s'appellent Flippant, Inspirant, Enthousiasmant, Réfléchir ensemble. Et donc, l'acronyme des initiales fait Fier. Donc, ça me permet de partager, en fait, ce que je peux lire, qui est en dehors de tout ce qui est LinkedIn, qui est plutôt digital, alors beaucoup IA, beaucoup management, beaucoup relations humaines, réseaux sociaux, pour pouvoir partager ça, et c'est plutôt le jeudi. Et ça, je le fais sur une autre plateforme qui s'appelle Substack. Et c'est intéressant de voir, en fait, les communautés autour de Substack, qui est une plateforme d'email, mais en fait, qui a inversé la logique du blog. C'est-à-dire, avant, tu faisais un article de blog et t'envoyais par email le fait qu'il y a un article à lire. Là, tu fais une newsletter qui devient un article de blog.
Ouais.
Et derrière, il y a une communauté d'abonnés, en fait, et d'abonnés, de producteurs de newsletters et de lecteurs qui créent des abonnés, en fait.
Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. J'aime bien Substack.
Et j'ai lancé, pour tester, effectivement, sur LinkedIn, la newsletter LinkedIn, une nouvelle newsletter. Où là, je partage juste 3 publications que j'ai pu voir dans la semaine, que j'envoie le mercredi. C'est assez intéressant de voir aussi la dynamique de la newsletter sur LinkedIn. Il y a des choses à faire. Alors, à partir de mon profil, je pense qu'il y a la même dynamique qui est faisable à partir d'une page entreprise, si ce n'est qu'il faut avoir des abonnés en amont.
Ouais.
En tout cas, à la première édition, tout ton réseau a l'information que tu sors la newsletter et que tu la lances et qu'ils reçoivent une notif, voire un email. Donc ça, c'est super intéressant pour avoir des abonnés, pour donner une idée. Hein. La newsletter, j'en suis à 7 éditions, donc ça fait 7 semaines, allez, 2 mois. J'ai plus d'abonnés sur la newsletter que j'ai lancée sur LinkedIn, 4000, que je n'en ai sur Maîtriser LinkedIn et sur Fier. Maîtriser LinkedIn, j'ai 3000 abonnés, mais aujourd'hui, depuis le début, elle a quelques années maintenant, cette newsletter. Donc j'ai 2000 actifs sur 3000 abonnés. C'était le roulement des nouveaux et des abs. Et Fier, je suis à moins de 1000 abonnés. Donc, la dynamique sur LinkedIn au niveau de la newsletter, c'est particulièrement intéressant. Maintenant, tu n'as pas les stats lecteur, cliqueur, moins de stats que
pas,
sur
ouais, c'est un peu...
Donc, ça reste des impressions aussi. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est assez puissant. Moi, comme tu l'as dit, c'est différents canaux et il faut les cumuler plutôt que les se dire je concentre. Vraiment, merci pour cette interview passionnante, Bruno. Et puis donc, à bientôt alors.
Merci Frédéric, à plus.
À très bientôt, au revoir.